Mont Ararat, 4372 avant Jésus-Christ, automne. Otek cassa la branche en deux morceaux, un long et un court, puis les enfonça dans la neige, légèrement inclinés, pour que les deux segments de bois se croisent en formant un angle droit. Le vent de la montagne faisait voler la neige en bourrasque. Les traces de pas d'Otek s'effaçaient presque aussitôt derrière lui, comme s'il marchait dans une rivière. Les branches permettraient de retrouver son chemin vers la grotte. Otek huma l'air glacé. Il avait longtemps hésité à sortir. Il faisait trop froid pour chasser, mais ses enfants, Aloum, Gana et Bilik, n'avaient pratiquement plus rien à manger. Sa femme, Maïka, n'avait presque plus de lait pour le bébé. À ses côtés, Leka trottait, les poils blancs de neige, humant toute trace de vie du museau. Toute trace de vie à tuer pour qu'eux-mêmes survivent. Otek leva les yeux. Ses ancêtres lui avaient montré jusqu'où s'étendait leur territoire. Parfois plus bas, mais jamais plus haut, jamais vers le sommet. Ici, Otek connaissait chaque dieu de la nature. Il avait appris à les apprivoiser. Otek se baissa, accueillit un flocon dans le creux de sa paume et le regarda briller malgré l'absence totale de soleil. Otek savait que parfois, les étoiles du ciel tombaient sur la terre. Elles restaient, puis elles disparaissaient, et d'autres dieux surgissaient, de sous la terre, plus puissants encore. Des cheveux verts des dieux, capables de respirer, et de se nourrir sans même se déplacer, sans chasser, sans tuer. Tels étaient ces dieux, et Otek les respectait. Mais il savait aussi que plus haut existaient d'autres monstres. Seuls les oiseaux pouvaient les voir. Otek ne connaissait de ces monstres que les immenses langues blanches qui descendaient sur les côtés de la montagne, d'une force telle qu'elles pouvaient briser en deux les plus épais rochers. Ces langues rampaient sur leur territoire sans même qu'on les voie avancer pour y dévorer la vie, pour les prendre au piège et les hisser jusqu'à la bouche du monstre. Il fallait se méfier, même si les langues blanches étaient lentes, très lentes. Leka s'arrêta soudain. Elle avait flairé quelque chose. Otek ne se précipita pas. Il disposa avec calme deux nouvelles branches croisées. Quoi qu'il arrive, il devrait retrouver son chemin. Et s'il ne revenait pas, les branches aideraient son fils Bilik à suivre son chemin. Otek venait de repérer des traces dans la neige. Des traces d'ours. Il serra entre ses mains la lance de bois taillée. Otek fit signe à Leka de rester en retrait. L'ours se tenait devant lui, énorme, haut de deux fois sa taille. Lui aussi avait faim. C'était sa chance. Pensa Otek. L'ours attaquerait le premier. Otek enfonça sa lance dans le sol, incliné. Il savait qu'il n'aurait pas la force de lutter contre l'animal. Tout alla très vite. Leka sauta sur un rocher au-dessus d'eux. L'ours chargea, sans même voir le pieu pointé entre lui et sa proie coincée entre les rochers. La lance s'enfonça dans la chair de l'animal à hauteur de sa poitrine. Il grogna, mais pourtant continua. Immédiatement, Otek comprit. D'ordinaire, l'ours se serait enfui, emportant avec lui le pieu planté dans son cœur. Otek aurait suivi ses marques de sang, aurait pisté l'animal, à distance, jusqu'à ce qu'il tombe pour ne plus se relever. Pas cette fois. L'ours n'avait rien mangé depuis des jours. La faim était plus forte que la douleur dans sa poitrine. Il sentait l'odeur de chair au bout de ses griffes, plus proche à mesure que la lance traversait son corps. L'ours était condamné. Lui ne le savait pas. Otek, si. Lui aussi allait mourir. Il ferma les yeux pour revoir une dernière fois sa fille, la jolie Gana. Son fils Bilik, trop jeune pour s'occuper de la famille comme un homme devrait le faire. Et Maïka, bien entendu. La douceur de la peau de Maïka. Il la sentait contre lui, comme une interminable caresse, lorsque le coup de griffe lui déchira la moitié du visage. Un autre, presque simultané, planta cinq flèches dans son ventre. Ainsi, c'était cela, mourir. L'ours titubait devant lui. La bête le fixa un long moment, comme si elle ne parvenait pas à comprendre comment un être aussi inoffensif avait pu lui faire autant de mal. Puis doucement, la lumière dans les yeux de l'ours s'éteignit. Otek savait que les deux petites étoiles qui illuminaient le regard de l'ours allaient rejoindre le ciel, tout comme les siennes, un peu plus tard. C'était ainsi. Les vivants devaient quitter la terre pour peupler le ciel. Un jour, dans très longtemps, lorsqu'il y aurait eu des morts, et encore des morts, le ciel ne serait plus qu'un champ entier d'étoiles, aussi nombreuses et serrées que les fleurs dans les champs. Alors la nuit n'existerait plus. Les paupières de Tek pesaient plus lourd qu'une pierre. il trouva la force de donner l'ordre à Leka de retourner à la grotte. Son fils Bilik pourrait sortir, suivre ses repères de bois, trouver le cadavre de l'ours. Tous pourraient manger pendant plusieurs lunes. Tout était bien. Otek sentait le sang tiède couler contre sa peau. Jamais depuis le temps de la mort des feuilles, il n'avait eu aussi chaud. Il ferma doucement les yeux. Il allait pouvoir rejoindre les autres étoiles, celles de l'ours, des loups et des oiseaux. Vivre avec elles en paix, jusqu'à la fin de la nuit.